Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. Aujourd'hui, à l'occasion du 216e anniversaire de Napoléon III, je vous propose de découvrir l'histoire du dernier empereur des Français, depuis la naissance de ses ambitions impériales jusqu'à la chute du Second Empire. Le 20 avril 1808 naissait à Paris l'ex-empereur des Français Napoléon III. Premier président de la Deuxième République, instaurateur du Second Empire, il sera au pouvoir 22 ans, dont plus de 18 ans en tant qu'empereur. Mais qui était-il et comment a-t-il marqué l'histoire de France? Revenons un peu en arrière. La Révolution de 1789, mais surtout la déchéance de Louis XVI en 1792, marque la fin de longs siècles de monarchie en France et le début de la Première République. Une courte république puisqu'à partir du XIXe siècle vont se succéder plusieurs empereurs et monarques jusqu'à la Troisième République, proclamée elle le 4 septembre 1870. Alors, comment se sont enchaînés les événements? Après le Directoire, qui s'étend de 1795 à 1799, un coup d'État, le 18 Brumaire de l'an 8, soit le 9 novembre 1799, instaure le Consulat, un régime qui place à la tête de la France un certain Napoléon Bonaparte. Ce dernier, fort de son succès et de sa notoriété, proclame le Premier Empire en mai 1804 et devient Napoléon Ier, empereur des Français, le 2 décembre suivant à Notre-Dame de Paris. C'est sous ce régime impérial que naît Charles-Louis-Napoléon Bonaparte le 20 avril 1808 à Paris. Neveu de Napoléon Ier, il est le fils du frère de l'empereur, Louis Bonaparte, et d'Hortense, la fille que l'impératrice Joséphine a eue de son premier mariage avec Alexandre de Beauharnais. Son père, nommé roi de Hollande, est souvent absent, et le jeune garçon est principalement élevé par sa mère avec ses deux frères. À la chute de l'Empire en 1815, la famille Bonaparte quitte la France. La reine Hortense s'installe en Suisse avec ses fils de 1817 à 1826 au château d'Arenenberg avant de s'établir à Rome. Là, à Rome, Louis-Napoléon se passionne pour la politique et s'engage déjà pour l'unité de l'Italie, encore morcelée en différents royaumes dont certains dépendent de l'Autriche. En France, après la chute du Premier Empire, la Restauration voit le retour successif de deux frères de Louis XVI sur le trône, Louis XVIII entre 1814-15 et 1824 et Charles X entre 1824 et 1830. Mais après trois jours d'insurrection populaire, les Trois Glorieuses, les 27, 28, 29 juillet 1830, Charles X, roi autoritaire, abdique et son cousin, Louis-Philippe d'Orléans, accède au pouvoir comme roi des Français soutenu par les libéraux. Cette monarchie dite de juillet repose sur une charte constitutionnelle, un compromis entre le roi qui n'a plus de pouvoir absolu et la nation. Le drapeau bleu-blanc-rouge est rétabli, la censure est abolie et la religion catholique n'est plus religion d'État. Pendant ce temps-là, élevé dans le souvenir de l'Empire et dans l'idée qu'il est issu d'une grande dynastie, Louis-Napoléon devient l'héritier politique de Napoléon Ier, dont le fils, le roi de Rome, surnommé l'Aiglon, est mort en juillet 1832. Un héritage confirmé quand son père Louis et son oncle Joseph, frère de l'ancien empereur, lui cèdent cette place. Fort du soutien des partisans bonapartistes, Louis-Napoléon va tenter de prendre le pouvoir le 30 octobre 1836 à Strasbourg. Il échoue cependant et Louis-Philippe le fait emprisonner. Libéré, il est condamné à l'exil aux États-Unis, mais il revient en Suisse en août 1837 et, après la mort de sa mère le 5 octobre, il décide de s'installer en Angleterre. En France, les opposants, notamment républicains, déstabilisent le régime du monarque bourgeois qu'est Louis-Philippe. Et dans cette France qui s'industrialise, la jeune classe ouvrière, dont les conditions sont précaires, stimulée par les nouvelles théories socialistes et par les groupes républicains, s'insurge régulièrement dans les grandes villes comme Paris ou Lyon. L'ordre est alors rétabli par la force, la censure aussi, et les associations républicaines sont dissoutes. Par ailleurs, malgré son développement économique, la France entre en récession en 1846. Le chômage augmente et avec lui, la colère monte chez les ouvriers, mais aussi chez les bourgeois libéraux, nostalgiques de la Révolution française ou de l'Empire. En parallèle, la France voit ressurgir le nom de Louis-Napoléon Bonaparte, et lorsqu'en mars 1840, Louis-Philippe décide de rapatrier les cendres de Napoléon de Sainte-Hélène à Paris, elles entreront aux Invalides le 15 décembre 1840, eh bien Louis-Napoléon souhaite surfer sur la vague bonapartiste pour prendre le pouvoir par la force. Il débarque alors à Boulogne-sur-Mer dans la nuit du 5 au 6 août, mais il va se faire arrêter là aussi et emprisonner au fort de Ham. Par une habile ruse, il réussit à s'évader du fort de Ham le 25 mai 1846. En réalité, profitant de travaux dans sa cellule, il s'est en effet déguisé en ouvrier pour prendre la fuite. Et donc, il va réussir à se réfugier de nouveau en Angleterre, d'où il va organiser beaucoup plus précisément son retour en France. Pendant ce temps-là, à Paris, pour contourner l'interdiction de leur association et pour pouvoir se rassembler, les républicains organisent des réunions sous forme de banquets festifs qui, eux, sont autorisés. Mais le 22 février 1848, un de ces banquets est soudainement interdit. Étudiants et ouvriers manifestent, rejoints par certains bourgeois, mais aussi et surtout par la garde nationale. Face à la grogne populaire et pour calmer les esprits, Louis-Philippe décide de renvoyer son premier ministre, François Guizot, jugé trop autoritaire, et de rappeler l'homme qui l'avait mené sur le trône, Adolphe Thiers. Mais le lendemain, une manifestation dégénère, un tir retentit, l'armée mobilisée réagit et 20 personnes sont tuées. La révolte s'amplifie et les barricades se multiplient. Le 24 février, la foule envahit les Tuileries et Louis-Philippe est contraint d'abdiquer en faveur de son petit-fils, le comte de Paris, mais en vain. L'Assemblée nationale est envahie et le 25, à l'Hôtel de Ville, un groupe de républicains mené entre autres par Raspail, Ledru Rollin, Lamartine, Arago, Dupont de l'Eure, Louis Blanc ou encore Pierre-Marie de Saint-Georges, eh bien ce groupe de républicains proclame la Deuxième République. Louis-Philippe s'exile en Angleterre et un gouvernement provisoire est alors composé. En parallèle, un vent révolutionnaire inspiré par les Français souffle en Europe, un printemps des peuples qui mène de nombreux monarques à concéder à des constitutions plus libérales. Louis-Napoléon Bonaparte en profite pour revenir en France et participer à la vie politique progressivement. Le nouveau gouvernement républicain provisoire proclame le suffrage universel direct, uniquement masculin cependant, désireux de remplacer le mode de contestation insurrectionnel par le vote, seul moyen valable selon lui pour renverser les gouvernements. Il abolit aussi l'esclavage par le décret du 27 avril 1848 et crée les ateliers nationaux, ces ateliers nationaux financés par l'État qui doivent donner du travail aux nombreux chômeurs grâce aux travaux de voirie ou encore à la construction de bâtiments. Mais le 21 juin 1848, les députés nouvellement élus en avril pour travailler sur la future constitution, des républicains libéraux issus en partie d'anciens courants orléanistes et conservateurs, eh bien ces députés votent la suppression des ateliers nationaux qu'ils jugent onéreux et inefficaces. Une insurrection populaire et socialiste s'élève alors, et après 4 jours d'une révolte réprimée dans le sang, le peuple a le sentiment d'avoir été trahi par la toute nouvelle République. Ces troubles n'empêchent cependant pas la nouvelle constitution d'être promulguée le 4 novembre 1848. Le principe de liberté, égalité, fraternité est rétabli, et le pouvoir législatif est confié à une chambre de députés élue au suffrage universel, tandis que le pouvoir exécutif revient à un président de la République puissant, en charge des ministres et des armées. Le problème ici est clair. Il n'existe aucun moyen ni aucune troisième force pour trancher en cas de désaccord entre les deux pouvoirs. Face à cette désorganisation de la vie politique, Louis-Napoléon, qui s'était fait élire député en avril puis en juin 1848, décide de se présenter à l'élection présidentielle qui a lieu le 10 décembre 1848. De leur côté, les candidats républicains sont vite discrédités par leur gestion répressive des émeutes du mois de juin. Soutenu par le Parti de l'Ordre qui regroupe des monarchistes, des bonapartistes ou encore des libéraux et conservateurs, dont Adolphe Thiers, un orléaniste, et Victor Hugo, un monarchiste devenu républicain, Louis-Napoléon Bonaparte se pose en défenseur du suffrage universel et du peuple contre l'autorité de l'Assemblée nationale à majorité républicaine. Il est élu à 75% le 20 décembre et devient ainsi le premier président de la République française, mais aussi le plus jeune, il a 40 ans, jusqu'à Emmanuel Macron en 2017. Par la suite, les élections législatives de mai 1849 vont consacrer le parti de l'ordre qui se veut garant de l'ordre, comme son nom l'indique, de la religion, de la morale et des bonnes mœurs. L'Assemblée nationale vote alors des lois conservatrices et réactionnaires. Retour de la religion catholique au cœur de l'éducation, restriction de la liberté de la presse, limite du suffrage universel ou encore répression des opposants. De leur côté, les républicains sont trop peu nombreux pour jouer leur rôle de parti d'opposition et pour donc renverser la donne. Louis-Napoléon Bonaparte, qu'on appelle désormais le prince président en référence à sa lignée impériale, va alors profiter de l'hétérogénéité du parti de l'ordre, de l'impopularité des mesures votées dans la confusion par l'Assemblée et de la faiblesse des républicains. En tournée en France en 1850, il critique vivement la politique des députés et se pose à la fois en défenseur des ouvriers et du peuple, comme en protecteur de la religion et de la propriété, donc d'une économie plus libre. Son image, à la fois sociale, libérale et conservatrice, renforce sa popularité, appuyée par des sociétés bonapartistes et des journaux acquis à sa cause. En outre, il réussit en parallèle à gagner la confiance de l'armée, notamment sur son nom de Bonaparte. Tout serait donc parfait pour le nouveau chef de gouvernement si la Constitution n'empêchait pas la réélection du président pour un second mandat. Louis-Napoléon propose alors tout simplement de réviser la Constitution. Pour ce faire, il s'appuie sur un comité de soutien, le comité pour la réélection, qui lance plusieurs pétitions auprès d'une population très réceptive. Cependant, à cette tentative de renversement constitutionnel, l'Assemblée va rejeter le texte et le prince-président n'a plus le choix. S'il veut garder le pouvoir, ce sera via un coup d'État. Il nomme alors des proches aux commandes de l'armée et de la garde nationale, et à coup d'une propagande organisée par la société du 10 décembre, créée par ses soutiens, il dévalorise le socialisme et discrédite l'Assemblée et ses députés, dont l'image réactionnaire déplaît aux Français. Au matin du 2 décembre 1851, date anniversaire de la victoire de son oncle Napoléon Ier à Austerlitz, le 2 décembre 1805, et de son sacre, le 2 décembre 1804, Louis-Napoléon lance un appel au peuple et à l'armée via une campagne d'affichage dans toute la France. Il annonce dissoudre l'Assemblée et rétablir le suffrage universel et propose un plébiscite pour reconnaître son autorité. Le palais Bourbon est occupé et les députés opposants sont arrêtés, parmi eux Adolphe Thiers. Des républicains, dont Victor Hugo et Jules Favre, tentent de soulever les Parisiens le 3 décembre, mais l'armée réprime la révolte. En province aussi, les insurgés sont réprimés et les républicains anéantis. 27 000 sont arrêtés. Pourtant, face à cette répression, la majorité des ouvriers ne réagit pas, car Louis-Napoléon a su habilement gagner la confiance du peuple. Ainsi, lors d'un plébiscite, les 20 et 21 décembre suivants, il est maintenu à la présidence avec 7,5 millions de oui. Par ce vote, il gagne le pouvoir constituant et propose ainsi une nouvelle constitution le 14 janvier 1852. Celle-ci partage le pouvoir législatif entre trois assemblées. Le Conseil d'État, nommé par le président et qui prépare les lois qu'il propose, le Sénat, nommé par le chef de l'État pour contrôler la constitutionnalité des lois, et un corps législatif, les députés, élus pour 6 ans au suffrage universel, qui ne se prononcent sur les lois que si elles sont validées par le Sénat lui-même nommé par le président. L'exécutif est donc renforcé, le législatif affaibli, et le président est désormais élu et rééligible pour 10 ans. Finalement, contrôlant ainsi le corps législatif, puis la presse via une loi en 1852, Louis-Napoléon Bonaparte décide de proposer au Sénat de rétablir l'Empire. Ce dernier approuve et un plébiscite est organisé les 21 et 22 novembre 1852. 8 millions de votants diront oui et le 2 décembre 1852, le Second Empire est proclamé. Louis-Napoléon Bonaparte devient alors, pour la postérité, l'empereur Napoléon III. L'empereur Napoléon III épousera son impératrice, l'Andalouse Eugénie de Montijo et comtesse de Thébat, le 30 janvier 1853. Ensemble, ils auront un fils et donc un héritier, le prince impérial Eugène Louis-Napoléon, dit Louis-Napoléon, né le 16 mars 1856. Le Second Empire est un régime politique fastueux et autoritaire, surtout dans sa première partie, entre 1852 et 1860. Il tendra ensuite à devenir plus libéral dans sa deuxième moitié et marquera ainsi le développement économique et culturel de la France comme son entrée dans la modernité. Innovations techniques, aluminium, électricité, moteurs thermiques, innovations urbaines, travaux d'Haussmann, développement du train, scientifiques, travaux de Louis Pasteur ou de Claude Bernard, innovations économiques, révolution industrielle, système bancaire, accords de libre-échange, naissance des grands magasins ou des halles, innovations scolaires aussi, école maternelle, enseignement primaire gratuit, et même innovation sociale, création des maisons ouvrières, d'un système de retraite, des accidents du travail, des soupes populaires, des visites médicales gratuites ou encore des microcrédits. La fête impériale, quant à elle, comme on l'appelle alors, fait en outre rayonner la France à l'international. Le prestige du pays semble restauré à travers des réceptions fastueuses, une mode créative et luxueuse, une diffusion culturelle portée par des talents comme Baudelaire, Flaubert, Stendhal, Mérimée, Courbet, Manet, Offenbach et Aubert, ou encore l'organisation d'expositions universelles grandioses. Politiquement, Napoléon III veut également redonner sa grandeur et sa puissance à la France dans le monde. Il s'allie d'abord à la Grande-Bretagne, ennemie séculaire, avec laquelle il remporte la guerre de Crimée menée entre 1853 et 1856 aux côtés de l'Empire ottoman contre la Russie. Napoléon III s'engage également pour l'unification de l'Italie. La France prend ainsi part à la première guerre d'indépendance italienne en 1848-1849 et envoie des troupes pour rétablir le pape, chassé des états pontificaux par les républicains menés par Garibaldi. Si cette première guerre d'indépendance échoue, l'idée de construire une Italie libre et unifiée reste cependant une priorité pour Napoléon III. Aidé de l'Angleterre, il va alors soutenir Camillo Benso, comte de Cavour, un libéral élu en 1852 président du conseil du royaume de Piémont-Sardaigne. Ce dernier, le royaume de Piémont-Sardaigne, est en effet menacé par l'Empire d'Autriche de l'empereur François-Joseph. Il faut dire que le royaume de Piémont-Sardaigne a initié plusieurs provocations envers son voisin. Bref, pour protéger son allié, la France décide ainsi d'entrer en guerre contre les Autrichiens et une deuxième guerre d'indépendance italienne éclate entre 1859 et 1860. Les victoires françaises et piémontaises entraînent dans le conflit d'autres régions qui, après plusieurs événements, s'unissent en un royaume d'Italie à la tête duquel Victor Emmanuel II est nommé roi d'Italie le 17 mars 1861. Fort de son succès et afin d'éviter une présence italienne toute proche, ou en tout cas trop proche de la France, Napoléon III demande en remerciement l'annexion du comté de Nice et du duché de Savoie. C'est chose faite en juin 1860, Nice et la Savoie rejoignent la France. Cependant, l'unification italienne n'est pas totale et des insurrections restent fortes, notamment dans les régions du sud. Finalement, une troisième guerre d'indépendance éclate en 1866, alors que le royaume de Prusse entend récupérer les États allemands intégrés à l'Empire d'Autriche. Le royaume d'Italie, qui voit ici l'opportunité de récupérer la Vénétie, toujours aux mains des Autrichiens, décide alors de s'allier à la Prusse. L'Italie commence par envahir la Vénétie et attaquer l'Autriche par le Tyrol, mais lâchée par son allié qui signe un armistice avec François-Joseph, elle se retrouve seule et se voit forcée d'arrêter les combats. L'Autriche n'en est pas plus gagnante dans l'histoire puisqu'elle est contrainte de céder la Vénétie à la Prusse victorieuse. François-Joseph va cependant tenter de renverser la situation en s'empressant de céder ce territoire à la France avant même que la Prusse ne s'en empare. Il imagine alors pouvoir s'allier les faveurs de Napoléon III qui, dans un acte de générosité, lui aurait rendu sa possession vénitienne. Mais l'empereur des Français a signé en parallèle un accord avec le roi Victor Emmanuel II. Une fois la Vénétie acquise par la France, elle revient directement et mécaniquement par cet engagement à l'Italie. L'unification totale de l'Italie s'accélère alors et s'achève avec l'annexion de Rome le 20 septembre 1870. Alors, pour continuer sur le volet international, au-delà de l'Italie, et on le sait moins, Napoléon III s'est aussi immiscé outre-Atlantique dans la vie politique du Mexique. Entre 1861 et 1867, appuyé par les conservateurs mexicains qui, pour contrebalancer le pouvoir des États-Unis, veulent installer dans leur pays un souverain européen, catholique et conservateur, Napoléon III décide d'y envoyer une expédition qui doit donc mettre en place un régime favorable aux Français. C'est l'archiduc d'Autriche Maximilien de Habsbourg qui est désigné pour devenir le nouvel empereur à la tête de l'Empire du Mexique. Mais une guérilla éclate et les opposants au nouveau régime impérial finissent par prendre l'avantage, notamment lorsqu'en avril 1865, la guerre de sécession américaine se termine et permet aux États-Unis de les soutenir. Les Américains somment ainsi la France de se retirer et, enlisé dans la guérilla, Napoléon III accepte. Le pauvre empereur Maximilien, refusant d'abdiquer, sera quant à lui fusillé en juin 1867. Vous le voyez ici, les interventions françaises à l'international sont bien réelles. Elles montrent entre autres la volonté de Napoléon III de suivre l'exemple de son oncle, grand stratège, pour imposer le rôle de la France sur la scène politique mondiale. Il sera cependant moins victorieux que lui, et la politique étrangère française aura même bientôt de lourdes conséquences sur la sécurité intérieure. En effet, l'intervention dans les guerres d'Italie notamment, mais aussi les désaccords concernant la succession au trône d'Espagne, vont renforcer les tensions entre la France et le royaume de Prusse. Des tensions latentes depuis les guerres napoléoniennes du début du siècle, qui vont conduire bientôt à la guerre franco-prussienne de 1870. Alors, la guerre franco-prussienne de 1870, entre le 19 juillet 1870 et le 29 janvier 1871, également connue sous le nom de guerre de 1870 ou encore de première guerre franco-allemande, est un conflit majeur qui entraînera des répercussions durables sur l'histoire européenne puisqu'il sèmera les graines des première et deuxième guerres mondiales. Cette guerre oppose le Second Empire de Napoléon III à une coalition d'une vingtaine d'États allemands menée par la Prusse, elle-même dirigée par le ministre-président Otto von Bismarck. Ce dernier cherche en effet à unir tous les États allemands en un seul et même pays, l'Allemagne, pour gagner en influence et contrer la puissance des empires autrichiens mais aussi français. Afin de fédérer l'ensemble de ces États allemands autour de ses ambitions d'unification, Bismarck leur trouve donc comme ennemi commun la France de Napoléon III. D'abord, il n'a pas digéré la défaite imposée à la Prusse par les armées de Napoléon Ier à Iéna en 1806. Ensuite, les coups bas des guerres d'Italie lui ont laissé un goût amer. Et enfin, un conflit d'intérêts politiques autour de la succession d'Espagne va finir d'accroître les tensions entre les deux États et faire de la France l'ennemi par excellence. Il ne restera plus à Bismarck qu'à jouer habilement avec les nerfs du peuple français pour que la guerre devienne réalité. Alors, comme je le disais, l'une des causes principales de la guerre est la question de la succession au trône d'Espagne. En 1868, la reine Isabelle II d'Espagne est en effet renversée, engageant le royaume dans une véritable crise de succession. Le 21 juin 1870, le prince Léopold de Hohenzollern-Sigmaringen, j'essaie de bien prononcer, cousin du roi Guillaume Ier de Prusse, se propose alors comme candidat. Mais cette candidature suscite l'indignation de la part de la France qui craint une hégémonie prussienne en Europe, et le 6 juillet, le ministre des Affaires étrangères de Napoléon III, le duc de Gramont, annonce officiellement son opposition. Pour ne pas envenimer la situation, Guillaume Ier accepte de retirer la candidature de son cousin. La France exige cependant plus d'engagement et demande qu'un document signé atteste qu'aucun autre membre de la famille royale prussienne ne prétendra au trône d'Espagne. Dans ce contexte de tension, l'ambassadeur français en Prusse, le comte Vincent Benedetti, est alors reçu le 13 juillet 1870 par le roi Guillaume Ier de Prusse à Bad Ems, une ville en Rhénanie-Palatinat. Lors de cette rencontre, le roi réitère sa volonté de coopération, mais, évitant de s'engager dans une discussion diplomatique, il répond de manière évasive et refuse de faire une promesse formelle de retrait définitif. Les échanges restent cependant courtois et on pense que la situation est apaisée. Mais c'était sans compter sur la ténacité du chancelier Bismarck. Conscient de la supériorité militaire de son royaume sur la France et toujours désireux d'unifier l'Allemagne derrière l'ennemi français, il va jouer habilement le jeu de provocation diplomatique pour déclencher le conflit. Après la rencontre entre l'ambassadeur de France et le roi de Prusse, Bismarck décide de publier une version des échanges dans un rapport officiel connu sous le nom de « Dépêche d'Ems », en référence à la ville de Bad Ems. Ce télégramme, rédigé habilement de manière à exagérer les prétendues insolences françaises et à présenter le refus du roi comme une humiliation de la France, est ensuite repris dans la presse allemande, puis traduit dans les médias français. La publication de la dépêche d'Ems, dont la traduction approximative et ambiguë attise les tensions, provoque un tollé en France. Le sentiment anti-prussien croissant est renforcé, des manifestations éclatent à Paris, et le gouvernement français, se sentant provoqué par cette manipulation délibérée de l'opinion publique, décide de déclarer la guerre à la Prusse le 19 juillet 1870. Bismarck a réussi son coup. Il a déclenché la guerre qu'il souhaitait avec la France, tout en laissant croire au reste de l'Europe que Napoléon III était le seul et unique agresseur. Dans le conflit franco-prussien qui s'ouvre, la France n'a malheureusement pas mesuré la puissance militaire de la Prusse et de la coalition allemande. Très vite, l'armée française, jusqu'alors considérée comme la plus forte du monde, est confrontée aux échecs. À l'intérieur du pays, le pouvoir politique se divise alors entre pacifistes et partisans de la guerre. Les défaites s'enchaînent pour la France jusqu'à celle de Sedan, le 1er septembre 1870, où Napoléon III, qui est malade, est capturé. En réalité, se sentant affaibli, il a tout tenté pour mourir sur le champ de bataille en héros, mais en vain. Il est désormais aux mains des ennemis et capitule le lendemain, le 2 septembre 1870. Alors même que quelques mois plus tôt, un référendum confirmait la confiance des Français en leur empereur, le Second Empire est ainsi précipité dans sa chute. Le 4 septembre 1870, à Paris, faisant suite à l'annonce de la capitulation française, des républicains menés par Léon Gambetta proclament la Troisième République. Le Second Empire n'est plus. La situation du nouveau régime républicain reste précaire. Le nord de la France est envahi par les Prussiens et Paris est rapidement tenu en état de siège. Gambetta, qui est alors ministre de l'Intérieur, va s'enfuir en Montgolfière pour gagner Tours, puis Bordeaux, où le gouvernement est réfugié, et les Parisiens vont se retrouver seuls face aux privations. La nourriture est rationnée, les queues s'allongent devant les magasins et la famine s'installe. Finalement, le 18 janvier 1871, l'Allemagne proclame son unité au château de Versailles dans la Galerie des Glaces et le 26 janvier, l'armistice est signé. Des élections sont organisées et le nouveau gouvernement d'Adolphe Thiers, à majorité monarchiste, négocie la paix. La France doit payer et par la même occasion abandonner l'Alsace et la Lorraine. Pour ce qui est de la famille impériale, l'impératrice Eugénie, qui avait pris la régence de l'Empire, se retrouve seule au palais des Tuileries quand la République est proclamée le 4 septembre 1870. Face à une foule qui s'est retournée contre le pouvoir, elle craint pour sa vie, comme Marie-Antoinette à une autre époque. Mais leurs destins sont différents. Eugénie réussit tant bien que mal à fuir vers l'Angleterre, où elle est accueillie par son amie la reine Victoria. Exilés, elle et son fils, le prince impérial, s'installent à Camden Place, où ils sont rejoints plus tard par l'empereur, qui y meurt le 9 janvier 1873. L'espoir de rétablir l'Empire reste cependant entier, jusqu'à ce que le prince héritier meure en Afrique du Sud sous l'uniforme anglais le 1er juin 1879. Eugénie, quant à elle, survivra 47 ans à Napoléon III avant de s'éteindre à Madrid le 11 juillet 1920 à l'âge de 94 ans. Leur corps repose aujourd'hui en Angleterre, à l'abbaye Saint-Michel, sur leur domaine de Farnborough. Voilà, j'espère que ce podcast autour de l'histoire de l'avènement et de la chute de Napoléon III vous aura plu et passionné. Quoi qu'il en soit, je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à vous rendre sur mon site, lescarnetsdigor.fr, pour retrouver divers articles et anecdotes illustrés autour du Second Empire. Vous pourrez également y découvrir d'autres histoires et visites de mes lieux historiques et culturels favoris, mais aussi diverses anecdotes à travers les articles et les podcasts dédiés. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, où je partage toutes mes actualités en photo et en vidéo. Et enfin, avant de conclure, je profite de ce podcast pour vous inviter à vous inscrire à la Lettre des Carnets de Bigorre, ma newsletter mensuelle dédiée à la culture, au patrimoine et à l'histoire. Pour ce faire, rien de plus simple, il vous suffit de suivre le lien sur mon site, lescarnetsdigorre.fr donc. En attendant, je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.